chemin de la connaissance. La sémiotique dans la cuisine du sens, par Jacques Munier. Aujourd'hui, la parole biblique avec Louis Panier. La rencontre de la sémiotique et des études bibliques date de la fin des années 60. Elle est apparue à côté d'autres méthodes d'exégèse historique ou herméneutique comme une pratique de description et de lecture tournée vers l'interprétation et les conditions de la construction du texte comme totalité signifiante. Curieusement, le sémioticien retrouve ainsi des intuitions et des méthodes de lecture pratiquées jadis par les pères de l'Église et notamment l'un des postulats fondamentaux de la sémiotique, le principe d'immanence, exprimé par Grémas dans sa célèbre sentence « Hors du texte, point de salut ». Ce principe anime en effet le type de critique interne appliquée par la patristique au texte biblique. Mais ce sont les particularités narratives du récit biblique qui suscitent l'intérêt du sémioticien, en particulier les paraboles et les récits de miracles. Louis Panier.
Les récits de miracles, les récits paraboles, donc on en trouve un bon nombre dans les évangiles. Et c'est vrai que pour faire les gammes de sémioticiens, c'est des récits intéressants parce que c'est des récits courts, bien structurés. Et si on les regarde de près, on s'aperçoit qu'ils offrent des particularités intéressantes, justement, dans la mesure où, par exemple, pour les récits de miracles, ils n'obéissent pas strictement au système manque-liquidation du manque. S'il y a une demande de guérison, on s'aperçoit que l'attribution de la guérison n'est pas la fin de l'histoire, n'est pas l'objectif principal, qui s'est produit dans le courant de la narration, des décalages qui font qu'il est question d'autre chose. Donc, déplacement du pivot narratif qui fait que on est passé de la demande d'objet à quelque chose qui met plus en scène la relation des sujets, par exemple. Donc, déjà, un certain balancement entre une sémiotique des objets et une sémiotique des sujets qui apparaît là et dont on a besoin. Alors, simplement, je dirais, le travail sur les textes bibliques, pour moi, a été utile comme sémioticien parce qu'il obligeait à faire avancer la réflexion sémiotique sur des chemins sur lesquels elle était, mais qui étaient tout à fait d'actualité. Et alors, les textes des paraboles, c'est un peu la même chose. On pourrait penser que les paraboles sont des petites anecdotes illustratives de l'enseignement de Jésus. Quand on les regarde de près, on s'aperçoit qu'ils fonctionnent non pas comme des énigmes insolubles, mais plutôt comme des récits qui mettent l'accent sur la manière de dire. Sur la manière de dire. Et d'ailleurs, on s'aperçoit dans les évangiles, quand il est question des paraboles, que ce qui fait problème, c'est le parler en parabole de Jésus. C'est-à-dire, c'est la manière de parler qui, là aussi, je crois, renvoie l'auditeur ou le récepteur de l'anecdote qu'on lui raconte à la manière de parler de celui qui parle et donc au problème de l'énonciation et du rapport au langage. Et donc là, c'est le problème du lecteur. Donc, que doit être le lecteur pour que ce texte se tienne et qu'il ne parte pas dans sa, on pourrait dire, comme une rhapsodie, c'est-à-dire comme si la Bible était simplement un paquet de textes rassemblés un jour, comme ça, pour faire une collection. Mais il y a d'abord une espèce de pari pour le sens, enfin, ou de pari pour le travail du sens. C'est le fait de se trouver en face d'un lieu d'observation, un texte comme un lieu d'observation dont on peut faire de la description syntaxique, linguistique, lexicale, etc., etc. Et se dire que dans ce texte ou à travers ce texte se manifeste une construction du sens dans laquelle le lecteur se trouve impliqué. Il y avait une phrase un peu anecdotique de Ricoeur à qui on demandait un jour pourquoi la Bible, pourquoi les textes. Et Ricoeur avait répondu pour qu'il y ait des lecteurs. Donc c'est cette idée que les textes sont faits pour être lus, pas simplement pour être décrits, et que nécessairement la construction d'hypothèses de sens à partir de ce qu'on observe est un travail qui implique le lecteur.
Alors vous voyez ça en quelque sorte se manifester dans le texte lui-même. En somme, vous cherchez l'ombre du lecteur derrière l'auteur absent.
Je ne dirais pas qu'on cherche l'ombre du lecteur, mais on cherche à quelles conditions il peut y avoir un lecteur. Et ça, je pense que c'est un des grands principes, enfin, ce que j'ai compris, un des principes de la sémiotique de Grémas, et je trouve qu'il est tout à fait intéressant, c'est de se dire, on part de l'observation de texte, puisque là, c'est des textes, et on se pose la question du modèle ou de la structure profonde qu'il faut supposer pour rendre compte de ce texte. Et c'est là où le travail sur les paraboles est aussi intéressant, c'est-à-dire que cette construction ou cette supposition de modèle se fait un peu à l'écart du savoir commun. Donc c'est vrai que si vous prenez une parabole comme une parabole du semeur, bon, un semeur sorti pour semer, il y a du grain qui est tombé sur le chemin, il y en a qui est tombé au bord, il y en a qui est tombé dans les épines, bon, c'est une histoire d'une banalité extrême. Simplement, si on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut supposer, pour quelle structure il faut supposer, pour que l'ensemble de cette histoire se tienne, qu'il ne soit pas simplement une structure du vraisemblable ordinaire, du savoir commun, à ce moment-là se pose le problème de l'énonciation, le problème de qu'est-ce qui fait tenir le langage. Alors, qu'est-ce qui fait tenir le langage? C'est nécessairement un sujet parlant. Et là, on est ramené au problème de l'énonciation.
On apprend une langue et on va directement à la source de la révélation.
Eri de Luca.
Dans cette langue, les mots font advenir les choses. Quand Dieu dit au début de la création, « Yéior, qui soit la lumière », il a besoin de le dire. Il ne suffit pas sa volonté, sa simple volonté. Il a besoin de ces mots et de cette langue, de cette curieuse langue, pour faire advenir la lumière. Et dans les jours de la création, il dit continuellement les choses qu'il va faire. Et les choses se produisent. Et c'est une perfection de la réalisation du pouvoir de la parole qui là est dans son niveau plus haut. Dans cette langue crue, dans cette langue sèche, dans cette langue qui n'avait aucun pouvoir militaire ni aucun pouvoir littéraire, c'était pas une langue universelle, c'était une langue absolument mineure et j'étais pris par la pauvreté et par la tension qu'il y avait dans cette langue. C'est la gorge de la clepsydre, cette langue, où toute l'immensité des choses à dire de Dieu vont se réduire dans ce passage. Donc c'est aussi un lieu de la réduction de Dieu, un lieu de rencontre entre l'infini et sa infime créature.
Le texte biblique se présente comme un corpus, au moins dans sa version chrétienne. Vous savez qu'il y a quand même plusieurs versions, on pourrait dire, de la Bible, selon qu'on ne prend que l'Ancien Testament, ou bien qu'on prend la totalité des deux. Donc c'est vrai que dans sa version chrétienne, disons, la Bible comporte une série de textes qu'on appelle Ancien Testament et une série de textes qu'on appelle Nouveau Testament, et puis le fait qu'ils sont structurés l'un par rapport à l'autre. Et que cette structure n'est pas simplement une structure, on pourrait dire, chronologique ou historique, qui ferait que le Nouveau Testament, c'est la fin de la Bible, donc c'est les chapitres qu'on rajoute à l'histoire, si on avait une perspective simplement historique. Mais que, et ça, c'est un problème de lecture, c'est-à-dire que pour lire le Nouveau Testament, il faut passer par l'Ancien, et pour lire l'Ancien Testament, il faut passer par le Nouveau. Bien. Donc c'est en travaillant sur cette articulation que, c'est pas moi personnellement, c'est dans le groupe de recherche dans lequel je travaille, on a émis cette idée que le rapport entre Ancien et Nouveau Testament était un rapport sémiotique. Alors, comment l'expliquer? On retrouvait un vieil adage patristique qui dit que le Nouveau Testament est latent dans l'Ancien, et que l'Ancien Testament est manifeste dans le Nouveau. Alors c'était trop beau, parce qu'on retrouvait exactement les structures de base d'une sémiotique à deux plans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que l'Ancien Testament cache le nouveau, d'une certaine manière, il le contient sans le manifester, mais que l'Ancien Testament, comme Ancien Testament, se manifeste comme tel dans le nouveau. Donc il faut les deux pour que la forme sémiotique fonctionne. Alors ce travail sur la sémiotisation des rapports entre Ancien et Nouveau Testament a été bien développé par un de nos collègues là, qui s'appelle Jean Calou, qui avait travaillé là-dessus.
Et notamment toutes les citations, le jeu des citations.
Alors il y a le jeu des citations, mais il y a plus que le jeu des citations.
Il y a le
statut même de l'écrit du Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est qu'écrire un Nouveau Testament? On s'aperçoit que ça n'a de validité, ça n'a de statut que parce que quelque chose achève l'Ancien, qui n'est pas dans l'Ancien Testament et qui n'est pas dans le Nouveau non plus. C'est-à-dire c'est la pliure entre les deux qui correspond à un événement sans écriture, qui est l'histoire de Jésus de Nazareth, qui est un personnage qui n'a pas écrit, qui est à la pliure entre deux écritures, mais qui, quand on lit les textes, qui se présente comme le lecteur de l'Ancien Testament. Alors on dira le seul lecteur. Mais un lecteur qui a disparu et qui renvoie, on pourrait dire, à la succession des lecteurs, en attente d'un lecteur. Donc c'est tout le problème de l'accomplissement qui est explicitement mentionné dans les textes du Nouveau Testament, par exemple dans les récits de la Passion qui on dit « ceci arriva afin que s'accomplit l'Écriture », etc. Alors, la grosse erreur est de penser que l'accomplissement de l'écriture, c'est l'application du principe du modèle. C'est-à-dire, c'était écrit et ça s'applique comme c'était écrit. Parce que bien souvent, on ne retrouve jamais la citation exacte qui correspondrait et qui pourrait être collée à l'événement. Non, c'est simplement, c'est cette idée que l'événement qui se produit là, c'est vrai particulier pour le procès et la mort de Jésus, l'événement qui se produit là, donne raison du texte ancien, mais en même temps a besoin du texte ancien pour pouvoir être dit. C'est-à-dire doit utiliser les figures du langage, des récits anciens, de l'Exode, de la sortie d'Égypte, du Sinaï, etc. Doit utiliser ces éléments-là pour pouvoir être dit. Mais en même temps, il reconstitue ces éléments-là comme des figures. Et non plus comme des récits d'événements. Alors, le feuilletage entre récits d'événements et figures de discours est en train de se jouer là. Et entre les deux, il signale qu'il y a un événement d'énonciation. Donc c'est trop beau pour un sémioticien. C'est-à-dire qu'on a une espèce de structure sémiotique qui est assez intéressante à suivre et de voir que justement, comme vous le disiez tout à l'heure, elle motive un certain type de citation, ou un certain fonctionnement de la citation dans les textes du Nouveau Testament.
Prophètes, ils composent une longue section de l'Écriture. Ils sont les courriers de la volonté de Dieu. Ces lettres placées dans des corps humains voués à devenir les porte-paroles de ce message sacré. Leurs vies sont affectées à la fonction d'écho du ciel, patiemment exposées à l'incrédulité et à l'hostilité des contemporains, en perpétuelle opposition au temps où il leur est donné d'agir. Les plus grands d'entre eux recevront la dictée sacrée après que leur bouche aura été lavée de tout le profane du monde. Un ange effleure les lèvres d'Isaac avec un charbon ardent. Le doigt de Dieu se pose sur la bouche de Jérémie. Dieu fait avaler à Ézéchiel tout un rouleau de parchemin écrit, puis lui attache la langue au palais et ne la lui délie qu'au moment où il doit répéter au peuple le message reçu. Le hurlement qui parle du futur à travers la gorge des prophètes est destiné, par l'intermédiaire de la Bible, à laisser une trace écrite dans les millénaires. L'intervention qui purifie et prépare le siège du témoignage oral contribue mystérieusement à cette durée. Un nuage comme tapis, Eri de Luca.
Louis
accompagné, vous avez abordé donc en sémioticien le texte biblique, en particulier les paraboles, et notamment vous avez analysé sous cet angle la parabole de Luc 19 sur le maître qui s'en va et qui revient et qui, en partant, donc laisse un certain nombre de mines d'argent, donc une somme d'argent à ses serviteurs, chacun d'eux ayant à charge de le faire fructifier ou non.
Oui, donc j'ai travaillé cette parabole déjà plusieurs fois. Je n'ai pas encore réussi, je pense, à trouver la structure qui permettrait de rendre compte des textes. Donc j'ai encore raté des choses. Mais ce qui m'a paru intéressant dans cette parabole, c'est son aspect peu moral, puisque à la fin, le maître s'en va pour recevoir la royauté dans un pays lointain, et quand il revient, il fait égorger tous ceux qui sont opposés à son accession au trône. Donc, c'est assez intéressant parce que ça évite au lecteur habituellement de croire que le maître c'est Jésus, parce que quand on arrive à la fin de l'histoire, on se dit c'est quand même pas possible. Alors, il se produit autre chose, je crois, c'est que cette parabole, moi j'ai essayé de comprendre que cette parabole était peut-être un modèle du langage, c'est-à-dire que ces mines qui sont des choses un peu curieuses, cette somme d'argent que le maître laisse de manière assez égalitaire, chaque serviteur soit aimé.
Une mine, vous avez retrouvé ça, équivaut à peu près au salaire de 100 jours de travail.
Oui, c'est ce que dit la note d'une des Bibles que j'ai consultée, mais bon. Mais c'est-à-dire, quelle que soit la quantité d'argent représentée par la mine, ce qui est important, c'est le calcul qui s'opère dans ce récit, où effectivement chaque serviteur reçoit une mine, et puis le maître s'en va et revient, et quand il revient, il évalue ce qui a été produit, et à celui qui a produit 10 mines, on donne 10 villes, et à celui qui a produit 5 mines, on donne 5 villes. Et celui qui n'a rien fait, on lui enlève sa mine et on la donne à celui qui en avait produit 10. Donc on est dans un système assez curieux, puisque pour les, entre guillemets, bons serviteurs, il y a un système de conversion, on pourrait dire, mine égale pouvoir sur des villes, donc qui pour moi est un système d'interprétation. On interprète, c'est-à-dire on fait ceci équivaut à cela. Mmh. Bon. Décodage.
Ou traduction.
Bon. Par contre, celui qui n'a rien produit, il est renvoyé à un manque. On lui enlève sa mine. C'est-à-dire que pour lui, le fait, le maître lui avait donné une mine, il la lui rend en disant « nous sommes quittes ». Tu m'as donné une mine, je te la rends, il ne s'est rien passé.
Il n'a pas voulu prendre de risque, en gros, c'est le sens de son explication.
Oui, il dit « j'ai eu peur de toi parce que tu es un homme qui prend les choses ». Et il dit « si je suis un homme qui prend les choses, il fallait travailler ». Bon. Or, donc il lui prend cette mine, il la donne à l'autre. Et on se termine dans un système de déséquilibre. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur le texte, c'est de se dire, mais à coup, qu'est-ce que c'est que cette mine supplémentaire qui est enlevée à l'un, donnée à l'autre, et qui ne servira jamais à rien, puisqu'elle n'entre pas dans la production. C'est pas une mine qui va produire des mines. Mmh. Et deuxièmement, ça n'est pas une mine qu'on va convertir en ville. Donc j'ai essayé, mais bon, le travail serait encore à apprendre, d'essayer de classer justement ces types d'objets, c'est-à-dire l'objet initial susceptible de donner lieu à une production, l'objet qui est produit au fur et à mesure qu'un parcours se déroule, l'objet qui est décodé ou traduit à la fin du parcours, et puis l'objet qui, ne servant à rien, est uniquement utilisé comme marque pour individualiser chaque un des serviteurs. Et bon, le travail reste à faire, mais il me semble que quand on prend la parabole comme ça, on s'aperçoit que les paraboles ne sont pas des anecdotes, mais qu'elles sont pratiquement des théories du sens, et que cette répartition des mines, ces catégories de mines qu'on trouve dans le texte, pour moi, était peut-être quelque chose qui parlait du langage et des figures et de ce que l'on déploie dans la langue. Alors, c'est un peu une interprétation.
Et bon. quel est le statut de la mine unique, celle qui n'a rien rapporté et qui ne peut pas être échangée contre une ville?
Je dirais, pour faire court, que c'est un signifiant. C'est un pur signifiant. Mais qui sert de marque, comme le nom propre. Alors que les autres sont des mines qui sont convertibles en ville, sont des mots qui ont du sens.
Des signes sémantiques.
Des signes, voilà. Donc il y a production du signe, et puis il y a surplus. Alors c'est ça qui est intéressant. Il y a quelque chose qui résiste au décodage et à l'interprétation qu'il y a une espèce de surplus qui est du côté du signifiant. Alors ça aussi, c'est reconductible à une théorie de l'énonciation. Savoir qu'est-ce qui se passe dans la production du langage. Mais, vous voyez, je trouve que l'intérêt de la... pour moi, la sémiotique est intéressante quand elle s'affronte à la Bible, c'est qu'elle y trouve des questions un peu impertinentes pour les biblistes. C'est-à-dire, c'est pas des questions qu'on a l'habitude de poser quand on aborde les textes bibliques en exégèse.